échappe aux caisses de l'État belge. Les révélations des Paradise Papers concernent aussi la Belgique. Un juge d'instruction a fait de la lutte contre l'évasion fiscale un de ses combats et il est votre invité, Thomas Gatisseux.
Bonjour Michel Claes.
Bonjour.
Que peut faire la justice? Est-ce qu'on peut aller rechercher ces milliards planqués dans les paradis fiscaux?
Extrêmement difficile parce que les paradis fiscaux sont comme des coffres-forts. Quand on n'a pas la clé, quand on n'a pas le code, ils sont inviolables.
Vous êtes juge d'instruction. Que peut faire la justice du coup?
Mais écoutez, à partir du moment où l'on constate que l'argent est parti vers les paradis fiscaux, on ne peut que constater que celui-ci définitivement est perdu. Parce qu'il n'y a pas de collaboration dans les paradis fiscaux. Alors, comment est-ce qu'on peut attaquer un paradis fiscal? Je dirais préalablement, nous avons des bonnes règles normatives en Europe et en Belgique particulièrement. Les facilitateurs que nous parvenons à identifier sont tenus de la même manière que leurs clients, dans le cadre du blanchiment d'argent, il y a une responsabilité pénale et civile qui nous permet de les attaquer. Quand une banque, par exemple, participe à l'organisation d'une évasion fiscale, soit pas du blanchiment d'argent, elle est personnellement tenue, quand on a découvert qu'elle a été le facilitateur pour permettre le départ de l'argent, elle est personnellement tenue également sur le plan pénal et civil. Mais l'argent lui-même, quand il se trouve dans un paradis fiscal, là, c'est fini, c'est parti.
Ces banques, justement, elles sont au cœur des précédentes révélations des Panama Papers. La Commission européenne a par exemple pris des mesures. On sent que ça bouge en Europe. Mais malgré les révélations, les scandales s'enchaînent. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression que cette partie, elle pourrait être gagnée?
Je crains malheureusement que non.
Pourquoi?
Parce que on m'avait posé la question, est-ce que vous avez besoin de loi? J'ai dit non, nous avons d'excellentes lois. Le problème, c'est le manque de moyens qui nous sont donnés. C'est une catastrophe. Moi, j'ai des policiers extraordinaires. La DR4, la DR5, la police fédérale à Bruxelles, l'OCDFO, l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, OCDFO, c'est plus court, OCRC, donc c'est la lutte contre la corruption. Ce sont vraiment des forces de police avec des gens extraordinaires. Et nous assistons à une dégringolade complète en termes d'effectifs depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas une priorité et l'état-major de la police fédérale ne met pas la lutte contre la criminalité financière comme étant une priorité. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous, quand on n'a pas les moyens, que l'on agisse?
Idem sur le plan justice. Ce n'est pas une priorité. Pourtant, politiquement, c'est annoncé comme cela. Le ministre des Finances annonce que la lutte contre la fraude fiscale, c'est une priorité. Oui. Vous dites qu'on a moins de moyens. Ça veut dire qu'on réduit aussi vos capacités?
Il ne faut pas confondre l'annonce et la pratique. Hein. Donc, je crains que l'annonce ne soit une escroquerie intellectuelle épouvantable. Non, c'est une impéritie depuis de très nombreuses années et qui s'est accrue et aggravée. La différence, c'est que grâce à la presse, grâce aux leaks, on se rend compte que le phénomène qui a toujours existé est extraordinairement dangereux, mais est-ce que les gens s'en rendent véritablement compte? Est-ce qu'il n'y a pas, chez le citoyen, une espèce de lassitude en disant « oui, mais bon, finalement, ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est difficile à comprendre. Alors, quelle est la réaction citoyenne par rapport à cela et par rapport à, c'est le mot que j'utilise, l'impéritie des moyens dont nous disposons? C'est la non-conscience de la part des gouvernants de l'impact de ce phénomène en termes de démocratie. Et à partir de ce moment-là, que faire? Vous savez, je parle des policiers, mais en termes de justice et de magistrature, c'est la même chose. Donc non seulement c'est le côté policier et le côté magistrature, c'est une catastrophe.
Vous dites que c'est une catastrophe en termes de moyens, ça veut dire qu'en termes de capacité aussi, vous avez vu une dégringolade, entre guillemets, des capacités à poursuivre ces affaires judiciaires?
Absolument.
Vous avez dû laisser filer, entre guillemets, les truands financiers?
Laisser filer les truands, les dossiers ne sont pas traités. Vous savez, les dénonciations de la cellule de traitement des informations financières qui reçoit les déclarations de suspicion sont classées sans suite par manque de moyens. Et donc, nous avons là des centaines de millions d'euros peut-être détectés qui ne feront jamais l'objet de la moindre attention.
Les précédentes révélations, les Panama Papers, avaient mis en évidence les placements offshore de 700 contribuables belges qui pratiquaient donc l'évasion. 41 dossiers ont été ouverts au parquet. Est-ce qu'il y a des suites judiciaires?
Je pense qu'il y en a.
242 dossiers ouverts à l'inspection spéciale des impôts, ça veut dire qu'on a su récupérer cet argent-là ou pas? Ou on a aussi classé sans suite à ce moment-là?
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'a dit le SP Finance à cet égard?
Il a dit qu'il continuait et qu'il ouvrait les dossiers.
Voilà. Ont-ils parlé d'un quelconque résultat?
Donc selon vous, ça ne donne aucune suite?
peut-être pas aucune, mais en tout cas pas escomptée. On considère, en termes de chiffres, et je dirais tant du côté SP Finance que des institutions qui analysent la situation actuelle, que la fraude fiscale, je ne parle pas de la criminalité financière, mais la fraude fiscale grave et organisée représente entre 6 et 7% du PIB brut belge actuel.
Vous dites que ça coûte 2000 euros par an à chaque contribuable belge.
Mais est-ce que vous vous imaginez que 6 à 7% du PIB brut de ce qui part de Belgique vers l'étranger, ça fait 400, je vais à la grosse louche, hein, 470 milliards PIB brut fois 6%. Et nous sommes en train de racler 4 milliards, 5 milliards dans le budget, on le prend à la culture, à l'enseignement, à la justice, on le prend à la médecine, aux soins de santé, aux pensions, et à un certain moment, cette espèce de d'hémorragie continue, et quels sont véritablement les moyens qui sont donnés pour lutter contre, pour arrêter cette hémorragie? C'est quoi les moyens? Citez-moi un.
Il y a des moyens qui sont alloués en termes d'inspecteurs, quand même, ça a été des annonces. On allait renforcer les troupes, il y a une taxe Caïman qui a été annoncée.
Vous revenez en termes d'annonces, pratiquement. Alors la taxe Caïman, dans le budget, 450 millions d'euros, combien? 39 millions.
Là aussi, vous parlez d'une hypocrisie intellectuelle, c'est ça?
Une escroquerie intellectuelle. Moi, je pense en réalité qu'il n'y a pas de la part des gouvernants actuellement une volonté réelle de lutter contre ce phénomène qui n'est pas national mais international.
Comment alors, vous si expliquez vous cette position politique alors?
Ah, je pense qu'il faudrait leur poser la question.
Parce que ça quoi? Ça paye pas cash aux électeurs? Pourquoi? Une protection des cols blancs? Comment vous expliquez cette position politique alors?
Alors, soit c'est parce que c'est trop difficile à comprendre, soit peut-être qu'à un certain moment, il y a une certaine crainte de toucher aux entreprises belges en les confondant avec les entreprises pirates. Ce sont les deux seules explications que je vois.
Il y a toujours cette crainte du chantage à l'emploi, c'est ça?
La crainte du chantage à l'emploi, en tout cas. Est-ce que vous voulez vraiment de sociétés qui blanchissent l'argent pour favoriser l'emploi? Ça, c'est peut-être une belle question tragique.
Parce que prenons l'autre cas qui est expliqué dans Le Soir ce matin, Nike, qui chez nous ne paye quasiment pas d'impôts. En gros, c'est un transfert des royalties de la marque déposée, par exemple Nike, dans une société offshore, en l'occurrence basée quand même aux Pays-Bas, et du coup qui permet de réduire la facture fiscale. C'est légal, du coup, ça?
Il y a des simulations qui ne le sont pas. Il y a, par contre, des délocalisation et une ingénierie fiscale qui est tout à fait légale. Mais vous savez alors...
Ça veut dire quoi, des simulations qui ne le sont pas?
La simulation, c'est par exemple les faux brevets. Il y a des tas de sociétés qui créent de faux brevets pour délocaliser et mettre le profit dans les paradis fiscaux où il n'y aura pas de taxes. Par contre, il y a aussi des délocalisations qui sont tout à fait légales. Alors vous savez, la seule arme pour lutter contre cela finalement, c'est de créer chez les jeunes entrepreneurs, c'est retrouver l'esprit de l'éthique. Mais malheureusement, dans une société mondiale où la nouvelle religion, c'est le dieu profit, je crains malheureusement que l'éthique disparaisse. Et ma définition de l'éthique aujourd'hui, c'est de dire que c'est la toute dernière richesse du pauvre.
Ça fait 15 ans que vous instruisez ces affaires financières au parquet, Monsieur Claes.
Ah, au parquet, pitié, je suis juge.
Vous êtes juge, oui. On a l'impression justement que le parquet aussi instruit les affaires, c'est ce que je voulais dire, que vous baissez les bras là en tant que juge.
Je ne baisse pas les bras, je continue, et nous obtenons des résultats. Mais nous devons obtenir plus de résultats par rapport à l'immensité du phénomène et surtout faire comprendre que celui-ci est un véritable échec démocratique et un échec démocratique mondial. Mais il y a des choses qui sont en train de se produire, peut-être. Notamment, l'Europe vient de créer ce pouvoir juridictionnel qui sera mis en place en 2020, qui est le procureur européen. Mais centré sur la lutte contre la criminalité financière dans le sens de la protection des intérêts de l'Europe. Ça, c'est une avancée majeure que l'on attend tous parce qu'une des qualités qui a été retenue par cette norme européenne, c'est l'indépendance de ce nouveau magistrat. Et moi, j'en attends énormément à cet égard.
Parce que les ministres des Finances se réunissent d'ailleurs ce matin, l'ensemble des ministres européens des Finances. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une mobilisation européenne? Là aussi, il y a eu des annonces hier. Est-ce qu'au-delà des annonces, il y a des actes?
On verra.
Il y a quand même des réglementations qui sont en train de se mettre en place. On a parlé des banques, là on parle des intermédiaires que vous évoquiez justement en début d'interview.
Mais vous savez, il y a des choses qui bougent, mais par exemple sur le plan strictement des vérifications fiscales en Europe, de magnifiques avancées ont été récemment constatées par la collaboration entre les États. Donc vous ne pouvez pas avoir un compte en banque en France ou en Italie sans le déclarer en Belgique parce qu'on le découvrira. Donc ça c'est une avancée réelle. Mais en termes de moyens par rapport à la lutte contre la grande criminalité financière, dont la fraude fiscale grave et organisée, moi je ne ressens pas véritablement de grandes avancées.
Parce que vous évoquez justement l'échelon mondial, l'année dernière, l'État belge a remboursé à tort 450 millions d'euros de précomptes mobiliers à des investisseurs étrangers de Dubaï, rien que parce que l'administration fiscale, en fait, n'a pas exercé le moindre contrôle. C'est une conséquence de cette dimension mondiale.
C'est pire que cela, c'est un braquage, de l'État. Ce sont des faux documents qui ont été soumis au SPF Finance, de faux documents. Et ces faux documents, tout simplement, n'ont pas été contrôlés. Et effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez 450 millions, je ne connais pas les chiffres exacts, je pense que c'est un petit peu plus, qui sont partis à Dubaï. Comme je dis toujours, Dubaï, c'est le paradis fiscal, c'est bye-bye.
Vous évoquez le manque de moyens pour la lutte contre l'évasion fiscale, la criminalité financière. C'est parce qu'ils sont alloués à la lutte contre le terrorisme ?
C'est une des explications, mais le terrorisme, c'est aussi une guerre économique. Est-ce que c'est vraiment une guerre de religion, le terrorisme ? Ben bon, en attendant, les policiers sont effectivement affectés à des tâches de terroristes, et c'est une chose. Mais pourquoi ne pas considérer que de la même manière, la lutte contre la criminalité financière a la même importance que la lutte contre le terrorisme ?
Parce que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est pas le cas, que l'État ne considère pas cela.
Effectivement.
Et donc ça veut dire que l'État serait complice de l'évasion fiscale, selon vous ?
Complice. C'est un terme pénal, ça.
Je pose la question. Co-auteur, complice ?
En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment le sentiment que les moyens ne nous sont pas suffisamment attribués pour lutter contre ce que moi j'appelle une des plus graves métastases de notre société mondiale et aussi nationale.
C'est un juge qui attaque le monde politique quand même ce matin, monsieur Klein.
Non, je n'attaque pas le monde politique.
En tout cas,
mais je souhaite de temps en temps que le monde politique puisse nous écouter en disant « Est-ce que vous vous rendez bien compte de la situation ?»
Vous avez été auditionné lors de commissions, notamment
absolument.
La Panama Papers. Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, en fait.
Ah, ça, on nous entend, mais quelles en sont les conséquences ultérieures et les conclusions qui en sont tirées en termes de moyens? Et ça, je peux vous assurer que, en ce qui me concerne, j'ai une très grande déception.
Il n'y a pas une volonté de nos gouvernants de lutter contre la fraude fiscale. On manque de moyens, c'est une catastrophe. On a des policiers extraordinaires, mais on assiste à une dégringolade en termes d'effectifs. Ce n'est pas une priorité. Il ne faut pas confondre les effets d'annonce et la pratique. Et puis le constat de Michel Claes, juge d'instruction, est clair. On coupe dans la culture.